Cinquième partie. Rien ne changea, tout changea. Franck perdit l'appétit et Camille reprit des couleurs. Paris devint plus beau, plus lumineux, plus gai. Les gens étaient plus souriants et le bitume plus élastique. Tout semblait à portée de main. Les contours du monde étaient plus précis et le monde plus léger. Microclimat sur le champ de Mars, réchauffement de leur planète, fin provisoire de la pesanteur. Plus rien n'avait de sens et plus rien n'avait d'importance. Ils naviguaient du lit de l'un au matelas de l'autre, s'allongeaient sur des œufs et se disaient des choses tendres en se caressant le dos. Aucun des deux ne voulant se mettre à nu devant l'autre, ils étaient un peu gauches, un peu bêta, et se sentaient obligés de tirer les draps sur leur pudeur avant de sombrer dans la débauche. Le monop en avait pris un coup dans l'aile. Grâce aux trois livres que Philibert leur avait offerts, Paris secret et insolite, Paris 300 façades pour les curieux et le guide des salons de thé à Paris, roulé jeunesse. Camille leva les yeux et ne dit plus de mal de son quartier où l'art nouveau tenait comptoir à ciel ouvert. Désormais, elle crapahutait des isbars russes du boulevard Beau Séjour, à la Mousaïa des Buttes Chaumont, en passant par l'Hôtel du Nord et le cimetière Saint-Vincent, où elles pique-niquèrent ce jour-là avec Maurice Utriot et Eugène Boudin sur la tombe de Marcel Aimé. Camille reposa le guide sur ses genoux et répéta
« Merveilleux peintre des chats et des misères humaines, il repose sous un arbre dans le coin sud-est du cimetière. » Jolie notice, non?
Pourquoi tu m'emmènes toujours chez les morts?
Pardon? Et où est-ce que vous voulez aller, ma petite Paulette? En boîte de nuit? Youhou, Paulette!
Rentrons. Je suis fatiguée.
Elle était fatiguée. De plus en plus fatiguée et de plus en plus lourde. Camille ne voulait pas l'admettre, mais elle était sans arrêt en train de la retenir et de se battre avec elle pour l'habiller, la nourrir et l'obliger à tenir une conversation. Même pas une conversation d'ailleurs, une réponse. La vieille dame têtue ne voulait pas voir de médecin, et la jeune femme tolérante n'essaya pas d'aller contre sa volonté. D'abord, ce n'était pas dans ses habitudes, et puis c'était à Franck de la convaincre. Mais quand elles allaient à la bibliothèque, elles se plongeaient dans des magazines ou des livres médicaux et lisaient des trucs déprimants sur la dégénérescence du cervelet et autres folichonneries alzheimériennes. Ensuite, elle rangeait ses boîtes de Pandore en soupirant et prenait de mauvaises bonnes résolutions. Si elle ne voulait pas se faire soigner, si elle ne voulait pas s'intéresser au monde d'aujourd'hui, si elle ne voulait pas finir son assiette, et si elle préférait enfiler son manteau par-dessus sa robe de chambre pour aller se promener, c'était son droit après tout. Son droit le plus légitime. Elle n'allait pas l'emmerder avec ça, et ceux que ça chiffonnait n'avaient qu'à la faire parler de son passé, de sa maman, de soir de vendange, du jour où Monsieur l'abbé avait failli se noyer dans la Loire parce qu'il avait jeté l'épervier un peu vite et que le machin s'était accroché à l'un des boutons de sa soutane ou encore de son jardin pour retrouver l'étincelle dans ses yeux devenus presque opaques. En tout cas, elle, Camille, n'avait rien trouvé de mieux. Elle la posait dans la lumière et la dessinait en l'écoutant. Et plus elle la dessinait, plus elle l'aimait. Est-ce qu'elle se serait battue davantage pour rester debout s'il n'y avait pas eu le fauteuil roulant? Est-ce qu'elle l'avait infantilisée en la priant de s'asseoir à tout bout de champ pour aller plus vite? Probablement. Tant pis. Ce qu'elles étaient en train de vivre toutes les deux, tous ces regards échangés et ces mains tenues alors que la vie s'émiettait au moindre souvenir, personne ne leur reprendrait jamais. Ni Franck, ni Philibert, qui étaient à mille lieues de concevoir le déraisonnable de leur amitié, ni les médecins qui n'avaient jamais empêché un vieux de retourner au bord du fleuve, d'avoir 8 ans et de crier « Monsieur l'abbé, monsieur l'abbé !» en pleurant, parce que si l'abbé coulait, c'était l'enfer direct pour tous ces enfants de cœur.
Moi, je lui avais lancé mon chapelet. Tu penses comme ça a dû l'aider, le pauvre homme? Je crois que j'ai commencé à perdre la foi ce jour-là. Parce que, au lieu de supplier Dieu, il appelait sa mère. Ah, j'avais trouvé ça louche.
Franck, je me fais du souci pour Paulette.
Je sais.
Qu'est-ce qu'il faut faire? La forcer à se laisser examiner?
Je crois que je vais vendre ma moto.
Bon. Tu t'en contrefous de ce que je raconte?
Il ne la vendit pas. Il l'échangea au Grillardin contre sa Golf de péteux. Il était au fond du gouffre cette semaine-là, mais se garda bien de le montrer. Et le dimanche suivant, il se débrouilla pour les réunir tous les trois autour du lit de Paulette. Coup de chance, il faisait beau.
Tu vas pas travailler?
Bof, j'ai pas très envie aujourd'hui. Dis donc, c'était pas le printemps hier? Ben si, les parigots, c'est le printemps, je vous signale.
Ah?
Il s'était approché de la fenêtre.
Non, mais moi je disais ça comme ça. Je disais juste que c'était dommage de rester là à regarder les Chinois pousser sur le champ de Mars, alors qu'on a une belle maison de campagne, comme tous les rupins de l'immeuble, et que si vous vous dépêchiez un peu, on pourrait s'arrêter au marché d'Azay et acheter de quoi préparer un bon déjeuner. Enfin, moi, c'est ce que j'en dis, hein. Si ça vous tente pas, je retourne me coucher.
Pareil à une tortue. Paulette déplia son vieux cou tout fripé et sortit dessous sa carapace.
Pardon ?
Oh, mais quelque chose de simple. Je pensais à des côtes de veau avec une jardinière de légumes. Et peut-être des fraises en dessert. Si elles sont belles, hein. Sinon, je ferai une tarte aux pommes. Faut voir. Un petit bourgueil de mon ami Christophe par-dessus tout ça et une bonne sieste au soleil. Ça vous dit ?
Et ton travail ?
Pfff, j'en fais bien assez, non ?
Et on y va comment ? Dans ton top case ?
Il but une gorgée de café et lâcha tranquillement.
J'ai une belle voiture, elle attend devant la porte. Le fauteuil est plié à l'arrière et j'ai fait le plein tout à l'heure.
Il reposa sa tasse et souleva le plateau.
« Allez, grouillez-vous les jeunes, j'ai des petits pois à écosser, moi. »
Paulette tomba de son lit. Ce n'était pas le cervelet, c'était la précipitation. Ce qui fut dit fut fait, et ce qui fut fait se renouvela toutes les semaines. Comme tous les rupins, mais sans eux puisqu'ils étaient décalés d'une journée, ils se levaient très tôt le dimanche et revenaient le lundi soir, les bras chargés de victuailles, de fleurs, de croquis et de bonne fatigue. Paulette ressuscita. Quelquefois, Camille souffrait d'accès de lucidité et regardait les choses en face. Ce qu'elle vivait avec Franck était bien agréable. Soyons gais, soyons fous, clouons les portes, gravons les corses, échangeons nos prises de sang, n'y pensons plus, découvrons-nous, effeuillons-nous, souffrons un peu, cueillons dès aujourd'hui les roses de la vie et gna gna gna, mais ça ne pourrait jamais marcher. Elle n'avait pas envie de s'étendre là-dessus, mais bon, c'était foireux leur affaire. Trop de différences, trop de... Enfin bref, passons. Elle n'arrivait pas à juxtaposer Camille à l'abandon et Camille aux aguets. Il y en avait toujours une qui regardait l'autre en fronçant le nez. C'était triste, mais c'était ainsi. Mais quelquefois, non. Quelquefois, elle réussissait à faire le point, et les deux emmerdeuses se fondaient en une seule, toute bête et désarmée. Quelquefois, il la bluffait. Ce jour-là, par exemple. Le coup de la voiture, de la sieste, du marché Bonas et tout, c'était pas mal. Mais le plus fort vint après. Le plus fort, c'est quand il s'arrêta à l'entrée du village et se retourna.
Mémé, tu devrais marcher un peu et finir à pied avec Camille. Nous, on va ouvrir la maison pendant ce temps-là.
Coup de génie. Car il fallait la voir, la petite mère, en chaussons molletonnés, agrippée au bras de sa canne de jeunesse. Celle qui s'éloignait du bord depuis des mois, en s'enfonçant dans la vase, comme elle avançait tout doucement d'abord, tout doucement pour ne pas glisser, puis relevait la tête, levait les genoux et desserrait son étreinte. Il fallait voir cela pour peser des mots aussi niais que bonheur ou béatitude. Ce visage soudain radieux, ce port de reine, ces petits coups de menton au voilage furtif, et ses commentaires implacables sur l'état des jardinières et des pas de porte. Comme elle marchait vite tout à coup, comme le sang lui revenait avec les souvenirs et l'odeur du goudron tiède.
« Regarde, Camille, c'est ma maison, c'est elle. »
Camille s'immobilisa.
« Eh ben alors, qu'est-ce que tu as ?
C'est votre maison?
Pardis, oui. Oh, regarde-moi ce fouillis. Rien n'a été taillé. Quelle misère.
La maison de Paulette était une petite bonne femme carrée qui se haussait du col et vous accueillait les mains bien calées sur les hanches, avec l'air entendu des fausses mijaurées. Celles qui baissent les yeux et font les modestes, alors que tout en elles suinte le contentement et la bonne satisfaction. La maison de Paulette était une grenouille qui avait voulu devenir aussi grosse que le bœuf. Une petite bicoque de garde-barrière qui n'avait pas eu peur de rivaliser avec Chambord et Chenonceau. La maison de Paulette existait. Elle n'avait pas envie d'entrer. Elle voulait voir son jardin.
Quelle misère! Tout est fichu. Du chien dans partout. Et puis c'est l'époque où il faudrait semer les choux, les carottes, les fraises, les poireaux. Oh, toute cette bonne terre au pissenlit. Oh, quelle misère! Heureusement que j'ai mes fleurs. Enfin là, c'est encore un peu tôt. Mais où sont les narcisses? Ah, les voilà. Et mes crocus? Et ça, regarde Camille, penche-toi comme c'est joli. Je les vois pas, mais ils doivent être quelque part, par là.
Les petites bleues?
Oui.
Comment elles s'appellent?
Muscari. Oh!
Quoi?
Il faudrait les diviser.
Pas de problème, on s'en occupera demain, vous m'expliquerez.
Tu ferais ça?
Bien sûr. Et vous verrez que je serai plus studieuse qu'en cuisine.
Et des pois de senteur aussi, il faudra en mettre. C'était la fleur préférée de ma mère.
Tout ce que vous voudrez.
Camille tâta son sac. C'est bon, elle n'avait pas oublié ses couleurs. On roula le fauteuil au soleil et Philibert l'aida à s'asseoir. Trop d'émotion.
Regarde mémé, regarde qui est là.
Franck se tenait sur le perron, un grand couteau dans une main et un chat dans l'autre.
Finalement, je crois que je vais vous faire du lapin.
Ils sortirent les sièges et pique-niquèrent en manteau. Au dessert, on se déboutonna, et les yeux clos, la tête en arrière et les jambes loin devant, on inspira du bon soleil de campagne. Quand Paulette se réveilla, elles firent le tour du hameau en voiture à bras, puis Camille la força à prendre un bain pour la réchauffer. Elle se mordait les joues. Tout cela n'était pas très raisonnable. Passons. Philibert fit du feu et Franck prépara le dîner. Paulette se coucha tôt et Camille les dessina en train de jouer aux échecs. Il fut décidé que les garçons dormiraient dans le canapé et Camille dans le petit lit de Franck.
Ne voudrait-il pas mieux que Camille prenne le grand lit ?
Ils le regardèrent en souriant.
Je suis myope, certes, mais pas à ce point tout de même.
Non. Elle va dans ma chambre. On fait comme tes cousins. Jamais avant le mariage.
C'est parce qu'il voulait dormir avec elle dans son lit d'enfant. Sous ses posters de foot et ses coupes de motocross. Ce ne serait pas très confortable ni très romantique, mais c'était la preuve que la vie était une bonne fille malgré tout. Il s'était tellement ennuyé dans cette chambre. Tellement ennuyé. Si on lui avait dit qu'un jour il ramènerait une princesse ici, et qu'il s'allongerait là, à côté d'elle, dans ce petit lit en laiton, où il y avait un trou autrefois, où il se perdait enfant, et où il se frottait ensuite en rêvant à des créatures tellement moins jolies qu'elle. Il n'y aurait jamais cru. Lui, le boutonneux avec ses grands pieds et sa cassolette de bronze au-dessus de la tête. Non, ce n'était pas gagné d'avance, cette affaire.